L'encyclopédie Boucher d'Argis, article homicide. Homicide, substantif masculin, jurisprudence, signifie en général une action qui cause la mort d'autrui. On entend aussi par le terme d'homicide celui qui commet cette action et le crime que renferme cette action. Il y a cependant certaines actions qui causent la mort d'autrui que l'on ne qualifie pas d'homicide et que l'on ne considère pas comme un crime. Ainsi, les gens de guerre qui tuent des ennemis dans le combat ne sont pas qualifiés d'homicide. Lorsqu'on exécute un condamné à mort, cela ne s'appelle pas un homicide, mais une exécution à mort. Et celui qui donne aussi la mort ne commet point le crime, puisqu'il le fait en vertu d'une autorité légitime. Suivant nos lois divines et humaines, l'homicide volontaire est un crime qui mérite la mort. On voit dans le chapitre 4 de la Genèse que Caïn, ayant commis le premier homicide en la personne de son frère, sa condamnation fut prononcée par la voix du Seigneur, qui lui dit que le sang de son frère criait contre lui, qu'il serait maudit sur la terre, et que quand il la labourait, elle ne lui porterait point de fruits, qu'il serait vagabond et fugitif. Caïn lui-même dit que son iniquité était trop grande pour qu'elle pût lui être pardonnée, qu'il se cacherait de devant la face du Seigneur et serait errant sur la terre, et que quiconque le trouverait le tuerait. Il reconnaissait donc qu'il avait mérité la mort. Cependant, le Seigneur voulant donner aux hommes un exemple de miséricorde et peut-être aussi leur apprendre qu'il ne m'appartient pas à chacun de suggérer de donner la mort même envers celui qui la mérite, dit à Caïn que ce qu'il craignait n'arrivait pas, que quiconque le tuerait serait puni 7 fois. Et il mit un signe en Caïn, afin que quiconque le trouverait ne le tuât pas. Caïn se retira donc de la présence du Seigneur et habita comme fugitif vers l'Orient d'Éden. Il est parlé dans le même chapitre de Lamech, qui, ayant tué un jeune homme, dit à ce sujet à ses femmes que le crime de Caïn serait vengé 7 fois, mais que le sien serait puni 77 fois. Saint Chrysostome dit que c'est parce qu'il n'avait pas profité de l'exemple de Caïn. Dans le chapitre 9, où Dieu donne diverses instructions à Noé, il lui dit que celui qui aurait répandu le sang de l'homme, son sang sera aussi répandu, car Dieu, dit-il, a fait l'homme à son image. Le 4e article du Décalogue défend de tuer indistinctement. Les lois civiles que contient l'Exode, chapitre 21, portent entre autres choses que qui frappera un homme le voulant tuer, il mourra de mort, que s'il ne l'a point tué de guet-apens, mais que Dieu le livrait entre ses mains, Dieu dit à Moïse qu'il ordonnera un lieu où le meurtrier se retirera, que si par des embûches quelqu'un tue son prochain, Moïse l'arrachera de l'autel afin qu'il meure. Que si un homme en frappe un autre avec une pierre ou avec le poing, et que le battu ne soit pas mort, mais qu'il ait été obligé de garder le lit, s'il se lève ensuite et marche dehors avec son bâton, celui qui l'a frappé sera réputé innocent, à la charge néanmoins de payer au battu des vacations pour le temps qu'il a perdu, et le salaire des médecins, que celui qui aura frappé son visiteur ou sa servante et qu'il soit mort entre ses mains, il sera puni. Que si le serviteur ou la servante battue survive de quelques jours, il ne sera point puni que si dans une rixe quelqu'un frappe une femme enceinte et la fait avorter sans qu'elle en meure, le coupable sera tenu de payer telle amende que le mari demandera et que les arbitres régleront. Mais que si la mort s'ensuit, il rendra vie pour vie, œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied, brûlure pour brûlure, plaie pour plaie, meurtrissure pour meurtrissure. Ces mêmes lois voulaient que le maître d'un bœuf fût responsable de son délit, que si l'animal avait causé la mort, il fût lapidé, et que le maître lui-même, qui aurait déjà été en averti et n'aurait pas renfermé l'animal, mourrait pareillement, mais que, si la peine lui en était imposée, il donnerait pour acheter sa vie tout ce qu'on lui demanderait. Mais il ne paraît pas que l'on ait eu la même faculté de racheter la peine de l'homicide que l'on avait commis personnellement. Le livre des Nombres, chapitre 35, contient aussi plusieurs règlements pour la peine de l'homicide. Savoir que les Israélites désigneront 3 villes dans la terre de Canaan et 3 au-delà du Jourdain pour servir de retraite à tous ceux qui auraient commis involontairement quelque homicide. Que quand un meurtrier serait réfugié dans une de ces villes, le plus proche parent de l'homicide ne pourrait le tuer jusqu'à ce qu'il eût été jugé en présence du peuple, et que celui qui aurait tué avec le fer serait coupable d'homicide et mourrait, et que celui qui aurait frappé d'un coup de pierre ou de bâton, dont la mort se serait ensuivie, serait puni de même. Que le plus proche parent du défunt tuerait l'homicide aussitôt qu'il pourrait le saisir, et que si de dessein prémédité, quelqu'un faisait tomber quelque chose sur un autre qui lui causa la mort, il serait coupable d'homicide, et que le parent du défunt égorgerait le meurtrier aussitôt qu'il le trouverait. Que si pour un cas fortuit et sans aucune haine, quelqu'un causait la mort à un autre, et que cela fût reconnu en présence du peuple, et après que les questions auraient été agitées entre le meurtrier et les proches du défunt, que le meurtrier serait délivré comme innocent de la mort de celui qui vous vengeait la mort, et serait ramené en vertu du jugement dans la ville où il s'était réfugié, et y demeurait jusqu'à la mort du grand prêtre. Si le meurtrier était trouvé hors des villes de refuge, celui qui était chargé de venger la mort de l'homicide pouvait sans crime tuer le meurtrier, parce que celui-ci devait rester dans la ville jusqu'à la mort du grand prêtre. Mais après la mort de celui-ci, l'homicide pourrait retourner dans son pays. Ce règlement devait être observé à perpétuité. On pouvait prouver l'homicide par témoin, mais on ne pouvait pas condamner sur la déposition d'un seul témoin. Enfin, celui qui était coupable d'homicide ne pouvait racheter la peine de mort en argent, ni ceux qui étaient dans ces villes de refuge racheter la peine de leur exil. Jésus-Christ, dans Saint Matthieu chapitre 5, dit que celui qui tuera sera coupable de mort. Reus erit iudicio. Et dans Saint Jean, chapitre 18, lorsque Pilate dut aux Juifs de juger Jésus-Christ selon leur loi, ils lui répondirent qu'il ne leur était pas permis de tuer personne. Ainsi on observait dès lors qu'il n'y avait que les juges qui pussent condamner un homme à mort. Enfin, pour parcourir toutes les lois que l'Écriture sainte nous offre sur cette matière, il est dit dans l'Apocalypse, chapitre 22, que les homicides n'entreront point dans le royaume de Dieu. Chez les Athéniens, le meurtre involontaire n'était puni que d'un an d'exil. Le meurtre de guet-apens était puni du dernier supplice. Mais ce qui est le singulier est qu'on laissait au coupable la liberté de se sauver avant que le juge prononçât sa sentence. Et si le coupable prenait la fuite, on se contentait de confisquer ses biens et de mettre sa tête à prix. Il y avait à Athènes trois tribunaux différents où les homicides étaient jugés, savoir l'aéropage pour les assassinats prémédités, le palladium pour les homicides arrivés par cas fortuit, et le delphinium pour les homicides volontaires, mais que l'on souhaiterait légitimes. La première loi qui fut faite sur cette matière chez les Romains est de Numa Pompilius. Elle fut insérée dans le code papyrien. Suivant cette loi, quiconque avait tué un homme de guet-apens, dolo, était puni de mort comme un homicide. Mais s'il ne l'avait tué que par hasard et par imprudence, il en était quitte pour immoler un bélier par forme d'expiation. La première partie de cette loi de Numa contre les assassinats volontaires fut transportée dans les 12 tables après avoir été adoptée par les semvires. Tullius Hostilius fit aussi une loi pour la punition des homicides. Ce fut à l'occasion du meurtre commis par un des Horaces. Il ordonna que les affaires qui concernerait les meurtres, serait jugé par les décemvirs, et que si celui qui était condamné appelait de leur sentence au tribunal du peuple, cet appel aurait lieu comme étant légitime, mais que si par l'événement la sentence était confirmée, le coupable serait pendu à un arbre après avoir été fustigé ou dans la ville ou hors des murs. La procédure que l'on tenait en cas d'appel est très bien détaillée par M. Terrasson en son Histoire de la jurisprudence romaine sur la 16e loi du Code papyrien qui fut formée de cette loi de Tullius Hostilius. La loi que Sempronius Gracchus fit dans la suite sous le nom de loi Sempronia de Homicidiis ne changea rien à celle de Numa ni à celle de Tullius Hostilius. Mais Lucius Cornelius Sylla, étant dictateur, l'an de Rome 1673, fit une loi connue sous le nom de loi Cornelia de Sicariis. Quelque temps après la loi des 12 tables, les meurtriers furent appelés Sicarii, du mot Sica qui signifie une petite épée recourbée que l'on cachait sous sa robe. Cette espèce de poignard était défendu et l'on dénonçait au triumvirs ce qu'on en trouvait assis, à moins que cet instrument ne fût nécessaire au métier de celui qu'il portait, par exemple si c'était un cuisinier qui eut sur lui un couteau. Suivant cette loi Cornelia, si le meurtrier était élevé en dignité, on l'exilait seulement. Mais si c'était une personne de moyen état, on le condamnait à perdre la tête. Enfin, si c'était un esclave, on le crucifiait ou bien on l'exposait aux bêtes sauvages. Dans la suite, il parut injuste que le commun du peuple fût puni plus rigoureusement que les personnes élevées en dignité. C'est pourquoi il fut résolu que la peine de mort serait générale pour toutes les personnes qui se rendraient coupables de meurtre. Et quoique Cornelius Sylla n'ait point été l'auteur de tous les changements que sa loi éprouva, néanmoins toutes les nouvelles dispositions que l'on y ajouta en divers temps furent confondues avec la loi Cornelia de Sicariis. On tenait pour sujet aux rigueurs de la loi Cornelia de Sicariis non seulement ceux qui avaient effectivement tué quelqu'un, mais aussi celui qui, à dessein de tuer, s'était promené avec un dard, ou qui avait préparé du poison, ou qui en avait eu, ou qui avait vendu. Il en était de même de celui qui avait porté faux témoignage contre quelqu'un, ou si un magistrat avait reçu de l'argent pour une affaire capitale. Les senatus consultes mirent aussi au nombre des meurtriers ce qui aurait châtié quelqu'un, soit par esprit de débauche, ou pour en faire trafic, ou qui auraient circoncis leurs enfants, à moins que ce ne fussent des juifs, enfin, tous ceux qui auraient fait des sacrifices contraires à l'humanité. On acceptait seulement de la loi Cornelia ceux qui tuaient un transfuge, ou quelqu'un qui commettait violence, et singulièrement celui qui attentait à l'honneur d'une femme. Les anciennes lois des Francs traitent du meurtre, qui était un crime fréquent chez les peuples barbares. Les capitulaires défendent tout homicide commis par vengeance, avarice ou à dessein de voler. Il est dit que les auteurs seront punis par les juges du mandement du roi et que personne ne sera condamné à mort que suivant la loi. Celui qui avait tué un homme pour une cause légère ou sans cause était envoyé en exil pour autant de temps qu'il paierait au roi. Il est dit, dans un autre endroit des capitulaires, que celui qui avait fait mourir quelqu'un par le fer était coupable d'homicide et méritait la mort. Mais le coupable avait la faculté de se racheter en payant aux parents du défunt une composition appelée vigilius, qui était proprement l'estimation du dommage causé par la mort du défunt. On donnait ordinairement une certaine quantité de bétail. Les biens du meurtrier n'étaient pas confisqués. Pour connaître si l'accusé était coupable de l'homicide qu'on lui imputait, on avait alors recours aux différentes épreuves appelées purgatione vulgare, dont l'usage continua encore pendant plusieurs années. Suivant les établissements de Saint-Louis, quand un homme, en se battant, en tuait un autre qu'il avait blessé auparavant, il n'était pas condamné à mort. Mais si un des parents de l'homicide assurait que le défunt l'avait chargé de venger son mort, on ordonnait le duel entre les parties et le vaincu était pendu. On trouve encore dans les anciennes ordonnances plusieurs dispositions assez singulières par rapport à l'homicide. Par exemple, à Abbeville, suivant la charte de commune donnée à cette ville par le roi Jean en 1350, si un bourgeois en tuait un autre par hasard ou par inimitié, sa maison devait être abattue. Si on pouvait l'arrêter, les bourgeois qui faisaient son procès, s'il échappait et qu'au bout d'un an il implora la miséricorde de l'échevin, il devait d'abord recourir à celle des parents. S'il ne les trouvait pas, après s'être livré à la miséricorde des échevins, il pouvait revenir dans la ville et ses ennemis l'attaquaient. Il se rendait coupable d'homicide. Dans les lettres de Guy, comte de Nevers, de l'année 1231, confirmées en 1356 par Charles, régent du royaume, il est dit que l'on pourra arrêter les bourgeois de Nevers accusés d'homicide lorsqu'il se présentera quelqu'un qui s'engagera à prouver qu'ils l'ont commis ou qu'ils auront été pris sur le fait et que l'on pourra les tirer hors de leur juridiction. Dans les lettres que le même prince donna l'année suivante en faveur des habitants de Villefranche-en-Périgord, il est dit que les biens d'un homicide condamné à mort dans cette ville appartenaient au roi et les dettes du condamné préalablement payées. À Péronne, suivant la charte de commune donnée à cette ville par Philippe Auguste, et confirmé par Charles V en 1368, celui qui tuait dans le château ou dans la banlieue de Péronne un homme de la commune de ce lieu était puni de mort, à moins qu'il ne se réfugiât dans une église. Sa maison était détruite et ses biens confisqués. S'il échappait, il ne pouvait revenir dans le territoire de la commune qu'après s'être accommodé avec les parents et en payant la commune une amende de 10 livres. La même chose s'observait aussi à cet égard dans plusieurs autres lieux. Quand l'accusé de meurtre ne pouvait être convaincu, il devait se purger par serment devant les échevins. La charte de communes de Tournai, qui est de l'année 1370, porte que si un bourgeois ou habitant de Tournai blesse ou tue un étranger qu'il a attaqué, il ne sera point puni et que ses biens ne seront point confisqués, parce que les biens d'un étranger qui, en se défendant, aurait tué un bourgeois ou un habitant de Tournai, ne seraient pas confisqués. Que les bourgeois et habitants de Tournai qui, en se défendant, auront blessé ou tué un étranger qui les aura attaqués, pourront, après s'être accommodés avec la partie, obtenir du roi des lettres de grâce et être rétablis dans l'habitation de cette ville. Suivant l'usage présent, tout homme qui en tue un autre mérite la mort. Le crime est plus ou moins grave, selon les circonstances. L'assassinat prémédité est de tous les homicides le plus criant. Aussi n'accorde-t-on point de lettres de grâce à ceux qui en sont auteurs ou complices. L'édit d'Henri II du mois de juillet 1557 prononce en ce cas la peine de mort sur la roue, sans que cette peine puisse être commuée, ce qui est confirmé par l'ordonnance de Blois, qui défend d'accorder pour ce crime aucune lettre de grâce. L'article suivant, concernant ceux qui se louent pour tuer, battre et outrager, veut que la seule machination et attentat soient punis de mort, encore que l'effet n'eût pas suivi. Ces lettres de rémission s'accordent pour les homicides involontaires ou qui sont commis dans la nécessité d'une légitime défense de la vie. L'homicide volontaire de soi-même était autrefois autorisé chez quelques nations, quoique d'ailleurs assez policé. C'était la coutume dans l'île de Céard que les vieillards caducs se donnassent la mort. Et à Marseille, du temps de Valère Maxime, on gardait publiquement un breuvage empoisonné que l'on donnait à ceux qui, ayant exposé au Sénat les raisons qui les avaient de s'ôter la vie, en avaient obtenu la permission. Le Sénat examinait leurs raisons avec un certain tempérament qui n'était ni favorable à une passion téméraire de mourir, ni contraire à un désir légitime de la mort, soit qu'on voulût se délivrer des persécutions et de la mauvaise fortune, ou qu'on ne voulût pas courir le risque d'être abandonné de son bonheur. Mais ces principes, contraires à la saine raison et à la religion, ne pouvaient convenir à la pureté de nos mœurs. Aussi, parmi nous, l'homicide de soi-même est puni. On fait le procès au cadavre de celui qui s'est donné la mort. Cette procédure était absolument inconnue aux Romains. Il n'y eut jamais pas que l'on dût faire subir une peine à quelqu'un qui n'existait plus, et un cadavre qui n'a point de sentiment. Mais parmi nous, ces exécutions se font pour l'exemple et pour inspirer aux vivants de l'horreur de ces sortes d'homicides.